Bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Ici, on aborde des solutions concrètes et durables pour vous permettre de créer des intérieurs responsables. Que vous soyez architecte d'intérieur, décorateur, designer ou tout simplement à la recherche de solutions inspirantes pour votre home sweet home, vous êtes au bon endroit. Je suis Coralie, moi-même décoratrice et architecte d'intérieur depuis 10 ans. Amoureuse de la nature et des grands espaces, je rêve d'un monde où la consommation devient intelligente et la créativité au service de la planète. Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable ? C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast My Green Intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nina Chardin pour cette interview où elle va nous parler non pas de sa formation, que vous connaissez sans doute, mais de sa rénovation. Oui, parce que Nina a décidé d'entreprendre la rénovation d'une maison sous l'angle le plus pertinent qu'il soit. Pertinent, c'est exactement le terme qu'elle emploie lorsqu'elle parle de rénovation, en considérant en effet l'ensemble des priorités sur un chantier. Elle fut donc sa propre cliente sur ce chantier, avec des priorités de budget, de timing, de matériaux, qui peuvent bien entendu varier d'un client à l'autre. Elle nous en parle avec toute transparence et nous explique aussi à quel endroit, à quel moment elle a su se foutre la paix dans ses priorités. A tout de suite avec Nina. Bonjour Nina et bienvenue sur le podcast de My Green Intérieur. Comment vas-tu ?
Bonjour Coralie, je vais très bien, je suis ravie d'être là. Et toi, comment vas-tu ?
Eh bien, je suis ravie de t'accueillir, donc je vais bien. merci d'être là. Nina, pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, même si j'en doute, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Oui, alors je suis Nina Chardin, la fondatrice de l'école du design intérieur durable, dans laquelle on forme donc les architectes d'intérieur, les décorateurs et les décoratrices à une pratique plus vertueuse de leur métier. Et on travaille également sur un projet de matériothèque en ligne afin d'identifier un maximum de solutions durables pour l'habitat, tant en termes de revêtement que de mobilier.
Super. Alors, tu as relevé récemment le challenge de te mettre justement dans la peau de l'architecte d'intérieur, donc d'un élève finalement, à ton tour, en rénovant toi-même une maison, ta maison d'ailleurs, tu vas nous en dire un petit peu plus. C'était quoi l'objectif ?
Alors, ce n'est pas ma maison pour le coup, mais c'est effectivement un projet laboratoire expérimental, je dirais. L'idée, c'était vraiment de me mettre à la place de monsieur et madame tout le monde qui souhaitent rénover son bien. Typiquement, donc, ce bien-là était en parpaing. Alors, la plupart des personnes vont me dire, mais c'est pas du tout écolo le parpaing. En effet, mais par contre, plus de 80% des habitats en France aujourd'hui sont en parpaing. Il y a beaucoup de retours d'expérience sur des rénovations de biens en pierre notamment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir parler au plus grand monde, puisqu'on a besoin de rénover massivement tout un tas de biens qui sont en parpaing aujourd'hui. C'est une réalité. Donc voilà.
Complètement. Ok, intéressant. Et alors, avant de rentrer dans les détails, justement, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ?
Alors, j'ai appris ce qui se passait vraiment sur le terrain de ce type de rénovation-là. Et c'était aussi l'idée, c'était de se confronter à une réalité. C'est-à-dire que, après, la différence de monsieur et madame tout le monde, peut-être, si tu veux, moi, j'ai poussé tous les sujets jusqu'au bout. Parce que je voulais voir jusqu'où on pouvait aller, ce que ça impliquait en termes d'investissement, de temps, de contraintes et compagnie. Donc, j'ai essayé en tout cas d'aller jusqu'au bout de tous les sujets. Alors, disons que c'est des choses qui étaient déjà là. Mais effectivement, je dirais que cette expérience a vraiment renforcé le fait que, déjà, il faut se foutre un peu la paix. C'est-à-dire que je pense que c'est hyper important de faire des choix en conscience, c'est-à-dire de pouvoir faire ses choix en ayant un peu la vérité sur le choix des différents matériaux, l'impact que ça va avoir aussi bien environnemental, mais aussi sur notre santé, sur le confort thermique, sur le confort acoustique et compagnie, et de pouvoir faire des choix en conscience en fonction de ses contraintes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout pour une écologie culpabilisatrice. Je suis vraiment pour des projets dans lesquels on se sent bien et qui respectent aussi notre santé mentale. C'est-à-dire qu'un chantier de rénovation, c'est déjà très prenant, très clairement. C'est déjà très, très pesant pour certains. L'idée, ce n'est pas d'en faire une prison non plus. Donc, l'idée, c'est de se foutre aussi un peu la paix. Et ça, je pense que c'est hyper important à rappeler, même dans des projets de rénovation. C'est pour ça que j'aime pas non plus trop le terme d'écologie ni d'éco-responsable. Pour moi, on mène des projets pertinents. Et dans pertinence, il y a tout un tas de critères différents qui sont, oui, le respect de l'environnement, mais aussi de l'humain habitant, mais de l'humain artisan, architecte d'intérieur aussi, également de bien-être, mais aussi de budget, de pertinence technique. Enfin, en fait, c'est vraiment une approche multicritère. Ce n'est pas juste aller chercher la solution la plus écologique, entre guillemets, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose quand on le met au regard de toutes ces contraintes.
Donc, si je comprends bien, en résumé, c'est aller chercher la solution la plus pertinente en adéquation avec les contraintes du chantier, et c'est vraiment du cas par cas.
Exactement. Et en fait, il n'y a pas de solution universelle, duplicable à l'infini, ça n'existe pas. Il y a des solutions pertinentes pour un projet donné.
Oui, tout à fait. Ok, intéressant. Et alors, sur ce chantier, en l'occurrence, quelles ont été les principales limites que tu as pu rencontrer, justement?
Alors, il y a une limite que je m'étais fixée, parce qu'elle est réelle et elle est propre à chacun, c'est celle du budget.
Bien sûr.
Donc, j'avais envie de me mettre aussi cette contrainte de montrer que non, le design intérieur durable, la rénovation pertinente, ce n'est pas un problème de riche, en fait. Ce que j'ai encore entendu il y a quelques temps.
Okay.
Non, c'est faux. On peut carrément mener une rénovation durable tout en respectant un budget. Là, j'ai pas terminé de finaliser mes calculs, mais en tout cas, je vais être à moins de 1500 euros du mètre carré, isolation comprise. Alors, pas les menuiseries intérieures, mais là, aujourd'hui, on est bien en deçà de ce que, de ce qu'on trouve aujourd'hui dans une rénovation à l'heure actuelle.
Oui, tout à fait.
Donc, oui, c'est possible, en fait. Et je pense que cette contrainte de budget, elle est propre à beaucoup de personnes. Une autre limite peut-être que j'ai rencontrée, c'est aussi que d'une région à une autre, notamment en réemploi, on n'est quand même pas tous égaux. mais heureusement, il existe quand même des solutions aujourd'hui de livraison, notamment via Le Bon Coin ou via Cocolis. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte de covoiturage, mais de colis,
ouais.
Qui permet de faire venir des choses d'ailleurs quand on ne les trouve pas localement.
Mmh.
Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai vu une vraie différence entre les ressources en réemploi dans les Vosges, par exemple, et dans d'autres régions plus ou moins rurales de France, par exemple.
Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier que tu peux nous citer?
Typiquement pour du mobilier ou même pour des luminaires ou pour de la déco, typiquement, si tu veux, dans les Vosges, on est sur une population qui va quand même potentiellement peut-être moins changer sa déco, qui est déjà un petit peu plus vieillissante. Aussi. On est sur une région qui n'est pas très, très riche non plus. Donc, peut-être que les gens changent moins de déco. Il y a beaucoup moins de magasins de luxe, de haut de gamme et même d'ailleurs de fast déco. Donc, je pense que les gens changent un peu moins leur déco. Donc, effectivement, j'ai trouvé moins de choses dans les Vosges, par exemple, que dans d'autres régions. Que le sud-ouest, par exemple, où j'habite aujourd'hui, qui est un petit peu plus confortable, on va dire, avec une population plus jeune. Et on voit vraiment que l'offre sur les sites de réemploi est complètement différente en termes de style, mais aussi de prix.
Ok, intéressant. Donc, il y a une vraie culture de la déco assez régionalisée, finalement, qu'on peut percevoir ne serait-ce que sur le web.
Ouais, j'ai l'impression.
Ok. Et alors, combien de temps t'as pris ce chantier?
Alors, j'espérais qu'il me prenne 3 mois. C'était évidemment complètement utopiste. Et donc, non, il a plutôt duré 1 an. Alors après, il a aussi duré plus longtemps parce que typiquement, pour l'isolation, je voulais absolument cette entreprise-là parce que je savais qu'ils avaient la maîtrise de la pose de la ouate de cellulose et notamment de tout ce qui est frein et pare-vapeur. Donc, je savais que l'enveloppe de ma rénovation serait optimale en passant par eux. Je ne voulais pas prendre le risque d'avancer mes travaux avec une autre entreprise qui avait moins de délai et que cette étape-là soit mal faite. Donc, j'ai préféré perdre un peu de temps pour m'assurer un travail optimal.
Ok, donc tu t'es laissé cette possibilité parce qu'il n'y a pas forcément d'urgence pour bien faire les choses sur un matériau que tu avais vraiment ciblé en l'occurrence.
Exactement.
Ok, bon, 1 an, c'est pas si pire comme on dit, mais
non.
Ça a peut-être engendré d'autres contraintes ou en tout cas ça aurait pu en engendrer d'autres si c'était un client avec une deadline bien définie.
Complètement.
Ok. Et alors, quels étaient justement tes critères de choix, des critères de choix de valeur, tant sur la sélection des matériaux, des produits finis? Quels étaient tes critères, ceux auxquels tu souhaitais ne pas déroger?
Alors moi, ma priorité, ça a été de faire la part belle au réemploi. Ça, pour moi, c'était vraiment la priorité maximale quand c'était possible. Quand ce n'était pas possible, je me suis orientée vraiment vers des solutions locales. Donc, par exemple, mon parquet et mon lambris du plafond étaient en bois local, issu de forêts dans un rayon d'à peu près 1 heure autour du chantier et préparé par des scieries locales, là encore à moins d'1 heure, 1 heure 30 max du chantier. J'ai aussi, typiquement, donc il y avait un mur en terre chauffant, on en reparlera peut-être un peu après, mais là, pareil, la terre est effectivement un matériau frugal et écologique, mais on est allé encore plus loin puisque l'artisan a travaillé avec de la terre des Vosges et d'Alsace, qui n'est pas très loin de la Bresse. Donc voilà, l'idée, ça a été vraiment de travailler aussi avec les richesses du territoire local, au maximum.
Et du coup, tu t'étais fixé un périmètre d'action ou c'était un peu selon ce que tu pouvais trouver au plus court, au mieux, et s'il fallait déborder un peu, tu le faisais?
Ma réflexion était plutôt sur, effectivement, au mieux, déjà en fonction de ce que tu trouves, parce que déjà trouver, c'est pas toujours évident, donc déjà t'as pas forcément énormément de possibilités locales, disons. Donc déjà ça a été ça, et puis il y avait la question du coût aussi qui jouait, évidemment. Et par exemple, ce bois local que j'ai acheté donc avec des scieries locales m'a coûté beaucoup moins cher que si j'avais acheté ce parquet dans une entreprise qu'on trouve sur Internet, par exemple, qui vend du parquet.
Ok.
Donc, à la fois, ça a été local et à la fois, ça m'a permis de faire des économies.
Super. Et alors, est-ce qu'il y a justement parmi ces critères, est-ce qu'il y a eu de la flexibilité et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es un petit peu sorti finalement de tes critères de valeur, de périmètre, de localité et pourquoi tu l'as fait?
Alors, oui.
Alors,
typiquement, j'aime bien raconter cette histoire de ce fameux. Alors, j'ai un ventilateur de plafond dans le salon lumineux, notamment pour un meilleur confort thermique. Et puis voilà. Et donc, ce fameux ventilateur, je l'ai cherché, mais pendant des mois et des mois sur le Bon Coin. Donc, j'en ai trouvé plusieurs, mais qui n'étaient pas locaux pour le coup. Donc, je demandais une expédition aux personnes qui le vendaient et elles m'ont toutes refusé cette expédition. Donc, après moult demandes qui furent des échecs, j'ai fini par l'acheter neuf. Et pas le plus écolo possible parce que la version écolo coûtait vraiment très cher. Donc, je suis sur un produit qui n'est pas ultra écolo en tant que tel. Par contre, j'ai fait les choses en conscience dans le sens où j'ai poussé la démarche jusqu'au timing qui était OK pour moi en le cherchant en réemploi, ne le trouvant pas. Je l'ai acheté neuf. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant de se dire, bon, bah, peut-être que je me mets une deadline, peut-être que je me mets un délai, peut-être que, alors bon, moi, c'était en moi, mais dans un projet qui a un timing plus court, ça peut être bon, bah, je me laisse 2 semaines pour trouver ce produit en réemploi. Si je ne l'ai pas, je passe à du neuf. En fait, là, on est plutôt sur une démarche de faire les choses en conscience et d'essayer de faire au mieux sans se culpabiliser si on n'a pas trouvé cette solution-là, en fait. C'est une réalité aussi. Idem, j'ai fait l'impasse. Alors, c'était un robinet que j'avais acheté sur Le Bon Coin, donc d'occasion. Il n'était pas précisé qu'il était, a priori, un peu entartré. et donc, quand il a été posé, malheureusement, il fuyait. Donc, il a fallu l'enlever. Et là, j'en ai acheté un neuf, made in France quand même. Mais voilà, je n'ai pas recherché un modèle en réemploi parce que je n'avais plus le temps.
D'accord.
Et puis que, en fin de chantier aussi, il faut être honnête, on est un peu plus fatigué, on a un peu moins la patience, on est un peu plus dans l'urgence. Et donc, effectivement, sur les petits détails de fin comme ça, où il y a des petits couacs, personnellement, effectivement, j'ai lâché prise davantage.
Je comprends tout à fait. Et alors, quels sont justement, tout à l'heure, tu nous en citais quelques-uns, quels sont les principaux matériaux que tu as utilisés pour illustrer un petit peu ce chantier? Comment tu t'es fourni, avec quoi?
Oui, alors j'ai fait la part belle. Alors en plus, les Vosges sont quand même un territoire assez riche en forêt, en culture du bois et en maîtrise du travail du bois. Donc j'ai fait la part belle au bois, effectivement, et aussi à la terre, que je trouve être un matériau riche de qualité, puisque ça contribue au confort thermique, ça élimine aussi les mauvaises odeurs, par exemple. C'est local, c'est, on va dire, réversible, puisqu'on peut l'enlever et le remettre dans la terre. Enfin, c'est un matériau qui, pour moi, a tellement de qualité que je pense qu'il mérite davantage d'être mis en avant. Après, j'ai aussi utilisé donc, du carrelage de réemploi. Donc, c'était plutôt une fin de stock achetée sur Le Bon Coin,
okay,
dans la cuisine. J'ai utilisé du linoléum, et non pas du lino, donc du linoléum qui est à 98 environ % naturel, dans les WC. J'ai utilisé de la moquette en PET recyclé dans l'entrée et du liège dans la salle de bain.
Ok.
L'idée, c'était aussi de pouvoir montrer aux personnes qui vont venir utiliser ce lieu différentes solutions qui existent en version écologique et de pouvoir les vivre, les toucher, les expérimenter. Au mur, j'ai choisi de la peinture Pure and Paint, dans l'ensemble de l'habitat, et une peinture Keim, qui est pour le coup plutôt une peinture minérale, dans la salle de bain, parce que c'était plus adapté à l'usage.
D'accord. Alors, je rebondis sur ce que tu disais sur le lino. Excuse-moi, ce petit aparté, parce que tu as dit du linoléum et non du lino. Quelle différence tu fais ?
Oui, alors le lino qu'on trouve très généralement dans les magasins de bricolage est donc plutôt un sol plastique, très clairement. Le véritable linoléum, pour le coup, est un matériau qui est quasiment 100% naturel, avec des propriétés bien plus intéressantes également, et qui a un impact environnemental bien différent. Mais effectivement, il y a souvent, bien souvent, on confond lino et linoléum. Et en fait, le terme de lino vient par extension à un abus de langage quand on a essayé de copier le linoléum, en fait. Donc, bien différencier les deux. Voilà.
Alors, pour moi, en effet, le lino, c'est juste la contraction des linoléums. Et en effet, cet abus de langage a amené à ce que tout ce qui est LVT, PVC, etc. soit utilisé en tant que lino. Mais en réalité, on est d'accord que le lino, c'est simplement une contraction de linoléum et que c'est la même chose.
A priori, oui. Pour bien les différencier, je pense qu'il est intéressant d'appeler du coup linoléum, ce qui est le vrai lino, et lino qui est rentré dans le langage courant pour parler de ces sols en PVC. Mais oui, effectivement, a priori, ça vient de la même, du même mot. Alors, il y avait d'autres petites choses, effectivement. Donc, pour la cuisine que j'ai achetée de réemploi, je l'ai peinte également en peinture Algo, qui est une peinture française à base d'algues. Et autre petit matériau atypique, qui est la vasque de la salle de bain, qui est fabriquée en porcelaine recyclée, donc un matériau fabriqué par Wasteriol dans le nord de la France avec des déchets de porcelaine.
Super, donc c'est de la porcelaine de base qui est reconstituée en porcelaine, en fait, c'est ça?
Exactement. Alors, pas vraiment en porcelaine, plutôt en néomatériaux, parce que c'est quand même assez différent de la véritable porcelaine, mais en tout cas qui a réussi à lui donner une seconde vie autre qu'en gravat ou autre.
Super. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, matériaux et tout ce qui est produit lié au bâti. Est-ce que dans la partie mobilier, luminaire, etc., tu as d'autres exemples à nous citer sur ce que tu as pu trouver?
Oui, alors je pense qu'ils sont désormais bien connus, mais effectivement, donc Le Bon Coin, Selency sont des plateformes qui ont été vraiment très très importantes dans toutes mes recherches, d'autant plus que les expéditions étaient possibles, mais aussi je me suis tournée beaucoup vers tout ce qui était ressourcerie et Emmaüs autour de chez moi. Et là aussi, j'ai trouvé vraiment des pépites et à des prix, mais vraiment imbattables. Donc typiquement, pour faire des économies dans un projet, c'est vraiment le type de solution qui est vraiment intéressante. Pour le carrelage aussi de la salle de bain, de la douche, pardon, j'ai utilisé donc du carrelage. Ce n'était pas le choix initial, mais là encore, changement de projet dernière minute, finalement carrelage, que j'ai souhaité donc en réemploi. Et là, je suis passée par Maison Carrel, qui est une entreprise spécialisée dans la récupération notamment de fins de stock, de carrelage, d'invendus et compagnie, et qui les revend. Et typiquement pour des projets comme ça, où on a besoin que de quelques mètres carrés, c'est parfait. Parce que ça peut correspondre à pas mal de fins de stock possibles.
Oui, tout à fait.
Pardon, je me suis complètement... Tu parles d'immobilier. qu'est-ce qu'il y avait d'autre en mobilier ?
Pas de souci.
Alors, typiquement, j'ai trouvé tout ce qui était banquette, assise, mais aussi ma cuisine sur Le Bon Coin. Pour tout ce qui était plutôt, à vrai dire, je dois dire, luminaire, pour le coup, je me suis plutôt tournée vers Selency, qui avait des produits un petit peu plus dans mes goûts. Et alors, pour tout ce qui était électroménager, reconditionné, je me suis tournée notamment vers le réseau Envie, qui sont plutôt des réseaux locaux que vous pouvez avoir autour de chez vous. Mais j'ai aussi trouvé des choses sur Back Market en reconditionné, ou encore, il y a également des produits, le site Darty, aujourd'hui, a désormais une page, enfin en tout cas, on peut cocher produits reconditionnés. Et là aussi, on peut trouver l'électroménager qui a été revu, réparé, et qui est souvent garanti un an ou deux.
Ok, super intéressant. J'imagine qu'il y a pas mal de plateformes qui commencent à s'y mettre, dont tout ce qui est vente de neuf avec une page spécifique, un peu à l'image de ce qu'a fait à un moment donné La Redoute avec La Reboucle, finalement.
Oui, complètement. Même si La Redoute a arrêté, il me semble, mais...
Oui, je crois. Hein. Ok, top. Et alors justement, esthétiquement, est-ce que tu savais déjà exactement ce que tu voulais ou bien tu as dû t'adapter au fur et à mesure des possibilités, du champ des possibles de ce volet seconde main?
Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que typiquement dans ce changement de paradigme des pratiques de design intérieur, bien souvent on nous apprend à concevoir un projet, puis à aller trouver les ressources pour le réaliser. En fait, dans une démarche pertinente, il y a une autre approche qui est de fonctionner un peu à l'envers, entre guillemets, en tout cas par rapport à ce qu'on nous enseigne, qui est plutôt d'identifier d'abord les ressources autour de chez soi, Et alors que ce soit des matières premières propres à notre région, parce que même d'une région en France à une autre, on a des ressources complètement différentes, notamment naturelles, mais aussi en termes de réemploi, consulter d'abord, par exemple, les structures qui proposent des matériaux de réemploi, identifier ce dont elles disposent et pourquoi pas imaginer un projet à partir de ça. Donc là, on est sur une démarche qui est complètement différente. Et une autre démarche qui est plutôt celle que je conseille et qui était plutôt la mienne, qui est un peu un aller-retour entre les deux. C'est-à-dire avoir une idée globale du projet qu'on a envie de mener, mais rester agile et flexible et aller trouver des solutions au réemploi et en fait faire toujours ce lien entre les deux pour finalement arriver à un projet qui ressemble à ce qu'on avait en tête tout en maximisant le recours à des solutions plus durables et plus locales.
Ok, je trouve ça hyper intéressant. Après, je me pose la question de savoir, donc là, toi, tu l'as fait en tant que consommateur, entre guillemets, en tant que particulier. Donc, tu avais vraiment les rênes de ton projet avec les délais que tu t'étais imposé, on va dire. Un archi d'intérieur ou un décorateur, est-ce que tu penses qu'il peut revoir son modèle économique sur cette base-là, avec les allers-retours que ça demande avec le client, les étapes de validation qui parfois risquent de freiner les disponibilités des produits de seconde main ou de réemploi? Comment tu vois ça de l'œil du professionnel qui devrait s'adapter à cette mission?
En fait, je pense que c'est à chaque architecte d'intérieur ou décorateur ou décoratrice de fixer un cadre d'un commun accord avec son client. C'est-à-dire que déjà, il y a un premier critère du cahier des charges, entre guillemets, qui est essentiel, c'est jusqu'où votre client est prêt à aller, par exemple. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Donc typiquement, est-ce qu'il est OK pour que vous faire complètement confiance sur le choix des matériaux de réemploi, par exemple, auquel cas il ne vous demande même pas de validation? Est-ce que vous lui demandez, par exemple, que, je ne sais pas moi, dans un délai de 24 heures absolument, il s'engage à vous donner une réponse pour que la collaboration fonctionne? Voilà, en fait, vous pouvez fixer un peu les règles du jeu d'un commun accord avec votre client, bien sûr. C'est un travail qui doit se faire collaborativement. Mais pour chaque projet, en fait, on peut fixer un cadre du jeu, des règles du jeu. Au niveau du timing, par exemple, pour moi, ça fait partie d'un des leviers du cahier des charges. C'est-à-dire que le projet, il va être mené selon tout un tas de critères, dont le budget, dont le timing, dont les critères esthétiques aussi, parce que on n'en a pas parlé encore, mais ça c'est aussi essentiel. Y a des clients qui vont être absolument à cheval sur le volet santé, donc en tout cas ne pas amener de polluants dans l'air intérieur, d'autres plutôt sur le côté écologique, mais neuf, d'autres plutôt sur le réemploi. En fait, vous pouvez prendre tout ça en compte et ajuster votre projet selon tous ces critères-là. Et typiquement, je pense qu'on peut pas, les archis ont l'habitude de dire qu'on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que soit vous avez un projet pas cher, mais peut-être plus long, plus ou moins qualitatif. Alors les archis, eux, je crois que leurs trois critères, c'est qualité, temps et budget. Et en fait, il faut à un moment donné réguler un peu ces trois-là. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai choisi de prendre du temps, donc j'ai pu aller plus loin, j'ai pu faire plus d'économies. J'aurais aussi pu me dire, bon, bah, je veux que ce soit fini beaucoup plus vite. J'aurais peut-être utilisé moins de réemploi. Mais en fait, il faut juste jouer avec tous ces curseurs-là pour arriver à mener un projet qui est, c'est ça que je parle de pertinent. Pertinent par rapport aussi aux humains, en fait, qui habitent et qui mènent les projets. Voilà. Donc, en fait, c'est possible. Mais fixez vos curseurs avec votre client pour mener le projet qui soit le plus pertinent possible.
Je trouve ça plutôt logique, en effet, et intéressant. Ça veut dire que dès le départ, grossièrement, selon les critères du client, on va adapter la forme de notre mission et du coup aussi un peu le modèle économique, parce que forcément la mission et le temps que ça va nous prendre ne sera pas forcément le même si on passe de ce schéma un peu historique de conception, 100% conception en solo, un peu en mode marmotte. C'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est qu'une fois qu'on a défini le cahier des charges, j'hiberne, je passe en mode marmotte et vous ne me revoyez plus avant la présentation du projet. Et en réalité, dans ce format-là, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ça veut dire que le client devient beaucoup plus acteur de la conception de son projet. Et forcément, c'est revoir un peu ses process. Oui. Ça demande de la flexibilité aussi de la part du professionnel parce que ce n'est pas forcément, en effet, ce qu'on a toujours fait ni ce qu'on a appris. Et ça demande de l'agilité, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ce qui est intéressant parce que je pense que ça devient aussi la force du pro pour se renouveler et s'adapter au marché.
Complètement.
Top. Si tu devais, avec le recul, retenir une chose, qu'est-ce que tu ferais différemment de ce chantier?
Ce que je ferais peut-être différemment, en tout cas, il y a une expérience qui a été une des facettes un peu douloureuses de ce projet-là. C'était pas du tout le fait que ce soit que je veuille du réemploi ou que j'ai une démarche plutôt tournée vers l'écologie et la santé. C'était de un le fait que le projet soit à l'autre bout de la France. donc j'ai dû faire des allers-retours en train, certes, mais en fait c'est quand même beaucoup de temps sur ta vie perso et de charge mentale supplémentaire quand tu fais le projet à distance. Première chose. Et la seconde, en fait, c'est le volet humain. C'est-à-dire que j'ai choisi un artisan qui était qui a fait vraiment beaucoup de choses et qui était plutôt de nature curieuse et pas spécialement pour l'écologie, mais en tout cas qui était enclin à poser du réemploi, à voilà, avoir une démarche un peu différente. Par contre, on avait beaucoup de mal à se comprendre, à communiquer. Ça, c'est un gros problème quand on travaille ensemble pendant un an. C'est très fatigant. Et j'ai eu une autre artisane avec qui, à la fois, on avait pour le coup des valeurs ultra communes en termes d'environnement, mais où, pareil, on a eu des différends plutôt sur le côté collaboration humaine. Et en fait, ce qui a été le plus pesant presque dans ce projet, ça a été tous ces différends et ces problèmes de communication humain. Et aujourd'hui, vraiment, ce que j'invite chaque personne à faire, c'est prendre le temps de constituer une équipe avec qui ça roule. J'étais la première à dire, mais non, c'est pas grave, ça va le faire, de toute façon, ça va aller. Et en fait, c'est pour moi le volet le plus pesant sur un chantier, qu'il soit écolo ou pas, en plus. Je pense que c'est vraiment ce qui peut peser le plus dans la balance.
Oui, oui, je comprends, oui. Forcément, s'équiper des bonnes personnes, ça aide pour la suite, surtout quand on est sur ce genre de critères. Si les gens ne sont pas alignés, ça devient vite compliqué.
Complètement. Et je pense que autant on prend du temps au départ pour constituer cette équipe, mais je pense qu'on en gagne vraiment derrière. Enfin, moi, j'aurais gagné du temps à avoir une équipe avec qui la communication était peut-être plus fluide, tu vois.
Oui, je comprends. Ok. Donc, le choix des artisans avant tout.
Ouais.
Très bien.
Qui partagent vos valeurs environnementales et humaines. Tant qu'à faire.
Ils sont pas encore faciles à trouver partout, j'ai l'impression, non?
Non, mais en fait, il y en a beaucoup. Alors, ils sont souvent pas très bons communicants. mais en réalité, ils existent.
Top. Et alors, quel message avec tout ça tu aurais envie de faire passer aux auditeurs qui, pour la plupart, sont du métier? Quel est le message que tu aurais envie de leur faire passer avec ton expérience vécue, tes limites, tes choix, tes déceptions, tout ce que tu as pu apprendre de ce projet-là que tu viens de nous partager? S'il y avait vraiment une chose que tu voudrais leur partager, quelle serait-elle?
Bah, que c'est possible. que c'est possible et que... en fait, c'était aussi l'objectif de ce projet-là, c'était de montrer que c'est réalisable avec un budget qui n'explose pas. Ça, c'était un des critères assez importants. Si, après, il y a quelque chose d'assez important pour moi, c'est de continuer à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et ça fait partie des valeurs que je défends vraiment, notamment dans la formation. C'est-à-dire que on n'est pas sur l'écologie culpabilisatrice, qui enferme, qui se vit dans la souffrance et dans la douleur. Moi, je vois vraiment l'écologie comme un terrain de jeu créatif immense, quoi. En fait, je trouve que c'est vraiment une belle façon de renouer avec sa créativité. Parce que justement, pour trouver des solutions qui soient à la fois écologiques et potentiellement pas très chères, parfois il faut être créatif, il faut voir un usage dans un objet qui n'est pas forcément évident, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et que je défends, c'est continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, continuer à gagner sa vie, tout en respectant la nature et l'humain. Et je pense que c'est vraiment possible.
C'est plutôt un joli message, en effet. Nina, cette maison maintenant, qu'est-ce qu'elle devient? Pour qui? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire si elle a déjà commencé à vivre après les travaux?
Oui, complètement. Alors l'objectif de ce bien, c'était qu'il soit mis en location. Tout simplement parce que je trouve qu'il est important de vivre, d'expérimenter ces solutions-là. Ne serait-ce que le confort thermique apporté par un mur en terre chauffant, qui est juste extraordinaire, le confort de ces matériaux au toucher, la démarche de conception et le choix de matières naturelles en particulier, et ce que ça apporte en termes de ressenti, de bien-être, de confort thermique, acoustique. Il y a la théorie, il y a ce qu'on voit en image, mais en fait, le vivre à travers ses sens, je trouve que ça apporte d'autant plus, ça porte plus de poids et ça donne d'autant plus envie d'y passer. Et c'est un peu ce que j'espère aussi, c'est pouvoir donner envie aux personnes qui vivent quelques jours dans ce lieu, d'avoir envie de faire les choses un peu mieux éventuellement dans leur prochaine rénovation.
Ok, top. Donc, c'est de la location courte durée pour expérimenter et ressentir cette rénovation comme quelque chose de positif et d'envisageable.
Exactement.
Alors, dernière question. Nina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, que ce message-là passe à d'autant plus d'architectes d'intérieur, décorateurs et décoratrices pour que tous ensemble, on puisse arriver à changer les choses. Plus on sera nombreux, plus on ira loin.
Amen. Top. Bah Nina, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu du micro.
Merci à
toi. Tu as tenu parfaitement le timing. merci pour ce que tu fais, surtout. Et continue, vraiment continue. Bravo pour ça et enjoy pour la suite. Continue de t'amuser et à faire passer les messages. On te retrouve sur... Tu vas me rappeler exactement le nom que j'écorche toujours.
sur Instagram, donc c'est nina.chardin. Il y a aussi l'Instagram de l'école du design intérieur durable. Et je suis aussi un peu plus sur LinkedIn maintenant, si jamais.
Ok. Alors, je pensais surtout à Edid et Matt Edid.
Ouais. Oui, donc il y a le compte Instagram de l'école du design intérieur durable et celle de mattedid.materiotech pour la plateforme.
Top. Donc, à suivre. Merci Nina. Et puis, je te dis à très bientôt pour la suite.
Merci à toi Coralie. À très vite.
Salut.
Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange avec Nina vous a plu, vous a enrichi et surtout vous a permis de comprendre comment amener sans culpabilité au client la notion de réemploi, de seconde main, voire même d'éco-conception tout simplement, en tenant compte toujours de ses priorités qui souvent sont plutôt orientées budget ou timing. Donc je vous invite vraiment à faire l'exercice à questionner davantage vos clients pour pouvoir intégrer au maximum ces notions-là sans toutefois contraindre les autres priorités. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, comme à votre habitude j'espère, de partager, de liker et de commenter l'épisode pour qu'un maximum de professionnels nous rejoignent et que la démarche prenne sens. À très vite pour un nouvel épisode.